La cité d'Alcandre, écrit et conté par Raffadam. Le village était perdu quelque part au fond d'une vallée qui ne figure sur aucune carte. Et même David Alberti, le grand explorateur et astrologue génois, ne parvint pas à trouver son emplacement. Seul un manuscrit, jalousement conservé à la bibliothèque des archives de Venise, évoque le lieu en ces termes. Entre le mont Olympe et les météores, se trouve un passage à nul autre pareil. Beaucoup l'ont cherché parmi les roches millénaires de Mévrakos, là où une légère odeur de soufre imprègne l'air. Les oiseaux et les mammifères ne s'y aventurent pas. Là vivent des femmes et des hommes de l'ancien monde, dans la plus totale autarcie. Hippolyte l'Ancien, disciple de Solon d'Athènes, parlait déjà de la cité perdue d'Alcandre. Une partie du manuscrit avait été perdue, le texte s'arrêtait en plein milieu d'une phrase, et les informations qu'il révélait relèvent plus des contes et légendes que de la cartographie. Alberti avait désormais 80 ans, un record pour l'époque. Il n'y a pas si longtemps, il parcourait la Grèce à la recherche des temples perdus, des cités englouties et des vestiges romains. Mais ses jambes faisaient des siennes. Il était assis sur une vulgaire chaise en bois, et sur la table devant lui, son cahier de notes. Le regard vide, il repensait à toutes ces années d'aventure. Hier encore, il parcourait les terres avec cet entrain et cet enthousiasme propre aux grands explorateurs. Mais sa santé avait eu raison de sa soif d'exploration et de cette curiosité maladive. La porte s'ouvrit d'un coup et vint s'écraser sur le mur en pierre. C'était sa fille, Chloé. Elle s'arrêta net sur le seuil de la porte, puis voyant son père avachi devant son vieux journal, elle eut un sourire mêlé de tristesse. Le vieux Alberti ne prêta pas attention à elle. Chloé soupira et dit « J'ai pêché de truites. Elles se font rares ces temps-ci. » Chloé déposa les poissons sur la table et attendit une quelconque réaction de la part de son père. Ne serait-ce qu'un « Merci, ma fille. » Mais le vieil homme était plus sombre que d'habitude. Peut-être était-il conscient de son état. Peut-être venait-il de réaliser qu'il n'irait pas plus loin que le voisinage. « Bon, j'en ai assez, » dit soudain Chloé. « Donne-moi ça. » Elle prit le vieux calepin, mais son père la saisit par le bras. « Ce carnet de notes est ton seul héritage, ma fille. Fais tes bagages et pars au matin. »« Qu'est-ce que tu me racontes, papa ?»« Fais ce que je te dis. » Et sur ces mots durs, le père alla s'allonger sur le lit de paille, laissant la fille avec ses poissons et son embarras. De son père, elle n'avait pas hérité que ce journal d'exploration. Elle avait cette témérité et cette attirance pour les grands voyages, bien qu'elle ait été élevée par sa mère, plutôt casanière et conservatrice. Chloé dormait à même un lit de fortune installé dans un coin. La lumière de l'eau passa à travers la porte de bois et vint éclairer son visage. Elle n'avait que 20 ans, mais en paraissait 30. Elle ouvrit un œil et regarda autour d'elle. Les poutres au plafond, le mobilier rudimentaire et le lit de son père. Vide. Elle se leva d'un bond, scruta la pièce minuscule, puis sortit au dehors. Un chemin de terre sillonnait entre les hautes herbes jusqu'à la grande route. Elle regarda sur sa gauche et ne vit que la vallée et les montagnes au loin. Elle jeta un regard inquiet sur sa droite et ne vit que la route. Elle contourna la maison et ne trouva que la tombe de sa mère, une croix plantée à même la terre. Son père était là, pourtant. Il l'observait caché derrière un buisson. Chloé regarda dans sa direction, mais ne vit que la végétation dense de la forêt. Elle repensait à ce qu'avait été son enfance et au décès de sa mère, des suites d'un mauvais rhume. Elle craignait désormais de perdre son vieux père. Il a dû aller au village, pensa-t-elle d'abord. Et sur cette pensée revigorante, elle retourna à l'intérieur. Elle mit une miche de pain et quelques vivres dans un sac, puis ressortit pour enfourcher son cheval. Elle s'arrêta en chemin, hésita, puis revint à l'intérieur. Sur la table, le carnet en cuir, aux pages jaunies et maculées d'observations diverses et variées. Elle le mit dans son sac et partit à la recherche de son père. Voir son enfant partir de la maison, c'est toujours un moment délicat, dit une voix derrière le vieil Alberti. Le vieil homme sursauta et mit une main sur son cœur. Il se retourna lentement et vit un homme assis sur un tronc d'arbre.
« Vous m'avez filé une de ces trousses »« Qu'êtes-vous »«
On m'appelle par bien des noms, vieil homme. »«
Mais que voulez-vous ?»«
Vous montrez le chemin, rien de plus. »«
Quel chemin ?»«
Celui qui mène à la cité d'Alcandre. » En entendant ces mots, l'explorateur sombra dans la confusion la plus totale.
« C'est impossible, » finit-il par dire sèchement.
« Alcandre n'est sans doute qu'une légende. »«
Pourquoi avoir laissé votre journal à votre fille dans ce cas ?» Le vieux ne sut quoi rétorquer, ce qui sembla amuser le jeune homme mystérieux qui se tenait devant lui.
« Veux-tu découvrir Alcandre ?» demanda le jeune homme.
« Et je peux à peine marcher, » dit Alberti. « Je suis désormais trop vieux pour ça. »
Et sur cette sentence, le vieil Alberti vit un nuage rougeâtre se former autour de sa jambe droite. Il eut un mouvement de recul, puis vit le nuage gagner sa jambe gauche, avant de se dissiper comme fumée au vent.
« Maintenant, suis-moi,
dit le jeune homme. Un peu incrédule, Alberti constata que ses jambes, autrefois lourdes et desséchées, avaient retrouvé leur force d'antan. Il se mit debout et toucha ses jambes les yeux grands ouverts et le sourire aux lèvres. Les veines de ses mains rêches et boursouflées disparurent bientôt sous une peau lisse et douce. Il porta ses mains toutes neuves à son visage et put sentir sa peau s'étirer et ses traits se raffermir. Sa vue floutée devint perçante et les couleurs autrefois ternes des bois devinrent plus éclatantes que jamais. David Alberti était redevenu un jeune homme. Il vit l'inconnu s'éloigner et dit «
Attendez !»
avant de le suivre à travers les bois.
« Excusez-moi, » dit Chloé au jeune commerçant grec. « Vous n'auriez pas vu le vieux Alberti ?»«
Oh, j'ai vu passer beaucoup de monde depuis ce matin. Mais j'ai pas le souvenir de l'avoir vu, non. Je pensais qu'il était à la retraite, d'ailleurs. »«
C'est le cas, » dit-elle. « Mais il n'était pas dans son lit ce matin. Et je m'inquiète un peu.
Cet homme n'a jamais su tenir en place. Toujours sur les routes, hein ?» Toujours un calepin sur lui, à décider ou à noter.
On dit même, par ici, qu'il aurait presque trouvé la cité d'Alcandre.
Elle adressa un sourire de politesse au jeune marchand et alla questionner le reste du village. Chaque fois, c'était la même chose. En fin de matinée, Chloé avait interrogé à peu près tout le monde, sauf une femme aveugle qui passait ses journées assise au bord de la route.
« Tu cherches ton père, n'est-ce pas ? » ?»«
Vous savez quelque chose à son sujet ?»
« Comme tu peux voir, brave enfant, Perséphone n'a plus toute sa vue. »«
Oh, je suis désolé, » dit Chloé. Je ne voulais pas vous offenser. Je suis juste très inquiète pour mon père. »«
Et pourquoi l'es-tu, ma fille ?»«
Pourquoi ?»«
Eh bien, parce qu'il est vieux.
C'est la seule famille qu'il me reste. »«
Ton père n'est pas ce fameux explorateur qu'on a vu que 3 fois en 40 ans ?»«
Oui, c'est lui, mais il peut à peine marcher désormais. »«
Et que ferais-tu à sa place ?»
Je ne sais pas. Je prendrais du repos.
Tu prendrais du repos, en attendant la mort. Quelle sotte idée! Un homme qui ne vit que par le voyage meurt en voyageant, ma fille. Ton père est simplement parti pour ne jamais revenir.
Que dites-vous, vieille femme?
Si tu veux retrouver ton père, mon enfant, pars donc à la recherche de cette cité perdue qui l'obsède tant.
Chloé en avait assez entendu. Elle se remit à cheval et poursuivit son chemin à la recherche de son père. Sur sa chaise, la vieille dame ricanait. Ses yeux vitreux et laiteux laissèrent apparaître peu à peu une pupille allongée et sordide. Le blanc devint jaune, puis sombre. Sa peau détendue se mua en une écorce reptilienne rougeâtre, et de sa bouche, on put voir des dents acérées sortir lentement. Le boulanger avait assisté à la scène, mais il n'avait vu qu'une jeune femme parler à un caisson avant de galoper vers d'autres horizons. « La fille Alberti, » pensa-t-il, « aussi folle que son père. » Et il était retourné joyeusement à son commerce. Jamais Chloé ne s'était aventurée aussi loin. Elle ne voyait plus l'horizon, juste le chemin de terre. Dans les toutes dernières lueurs du soir, elle cravachait son cheval pour rejoindre le prochain village. Mais l'animal galopait sans entrain. Il avait soif et l'un de ses sabots lui faisait mal. Un panneau en bois avait été planté à la croisée d'un chemin.
y figurait un nom, chez Ambroise. Chloé sortit le journal de son père. Les premières pages étaient une suite de réflexions et d'informations sur la supposée cité d'Alcandre, suivie d'une carte dessinée de la main même d'Alberti, selon les archives qu'il avait pu consulter à Venise. Sur la carte figurait une maisonnette attenante au bois des Mévracos. Chloé soupira, puis dit pour elle-même, « Sans doute la taverne d'Ambroise. » Elle remit le journal dans sa besace, puis hésita à poursuivre sa route pour atteindre le prochain village. Mais la nuit était déjà là, et puis comment son père aurait-il pu parcourir autant de kilomètres? Elle entraîna son cheval sur le sentier sinueux. De part et d'autre, la forêt de Mévracos. Immense, dense et silencieuse. Le cheval trottait désormais, et Chloé tendait l'oreille tout en observant l'obscurité des bois. Une faible lueur attira son regard, c'était une taverne aux carreaux floutés. Elle laissa son cheval s'allonger près d'un arbre et entra. La grosse porte de bois s'ouvrit sur une salle enfumée et comble. Tous les clients interrompirent leur discussion pour observer l'étrangère. Il n'y avait là que des hommes et pas des meilleurs. Chloé les dévisagea furtivement. Elle ne ressentait aucune peur en cet instant. La recherche obstinée de son vieux père avait anesthésié toutes les autres préoccupations. Le gérant la regarda s'avancer vers le comptoir, le sourire aux lèvres. « Bonsoir, dit-elle. Vous auriez vu un vieil homme, pas très grand, le nez aquilin et les sourcils épais. »«
J'ai vu un vieillard, ouais. Un jeune homme l'accompagnait. »
Chloé se retourna dans l'espoir de voir son père assis à une table ou endormi près du feu. Mais elle ne vit que les regards mal intentionnés d'une douzaine de malandrins.
« Ils se sont arrêtés pour prendre à boire, » ajouta le gérant. « Puis ils sont repartis aussitôt. »
Chloé jeta un œil sur le côté. Deux hommes s'étaient accoudés au comptoir. Ils la regardaient, l'air amusé. « Ils sont repartis par la grande route ?» demanda Chloé.
« Non, » dit le gérant. « Je les ai entendus prendre le chemin de derrière. »
Un autre homme était venu s'accouder juste à côté d'elle. Il sentait la bière et la sueur, il respirait fort. En certains endroits, sa barbe ne poussait plus, à cause des blessures qu'il avait reçues au visage. « Merci, » dit Chloé au gérant. Elle allait repartir, quand l'un des hommes la prit au bras. D'un geste réflexe, elle lui mit un grand coup dans les parties basses et courut au dehors. Les autres se lancèrent à ses trousses, mais ils étaient lourds et saouls. Bien carassés, le cheval de Chloé se mit sur pied. Elle l'enfourcha et s'enfonça un peu plus dans la forêt et la nuit naissante. Les malfrats montèrent enfin sur leurs chevaux, maladroitement. Ils étaient certes ivres, mais il n'y avait qu'un seul chemin. Deux d'entre eux avaient allumé chacun une torche. Ils la prirent en chasse. Chloé avait le cœur haletant, mais son esprit était à nouveau focalisé sur l'objet de sa quête. Le dernier rayon de soleil disparut derrière la canopée et le chemin commença à disparaître définitivement sous l'obscurité. Le cheval ralentit de lui-même et Chloé n'eut d'autre choix que de continuer à pied. Elle entendait les bruits de sabots au loin. Ils allaient crescendo. Elle prit alors son cheval par les rênes et sortit du chemin pour s'enfoncer à l'aveugle dans la forêt, se cognant contre les troncs, butant contre les pierres ou les racines. Soudain, elle se figea. Les cavaliers étaient tout proches. Elle se retourna légèrement et vit la lumière des torches fendre l'obscurité du bois. Ils passèrent à son niveau sans la voir et continuèrent leur course effrénée sur le chemin de terre. « Nous devrions faire une pause, » dit le jeune homme au vieil Alberti.
« Oh, je ne suis pas fatigué, » répondit Alberti avec enthousiasme. « Et puis, la lune éclaire déjà assez bien. »
Le jeune homme sourit aimablement, puis scruta l'horizon.
« Nous poursuivrons à l'aube, » dit-il avant de faire naître une flamme entre ses mains. Le vieil Alberti n'en revenait pas. Il regarda la flamme, les yeux grands ouverts, bouche bée. « Mon nom est Paimon, » dit le jeune homme, avant de souffler dans ses mains jointes. Un vent de braise et de flammes violettes vint caresser le sol en des cercles concentriques. Un feu vif se forma, éclairant les feuilles mortes et les cimes des grands êtres.
« Comment faites-vous cela ? » demanda le vieux.
« Je suis né ainsi, » répondit Paimon.
il y a fort longtemps. »
Le vieux Alberti vint se réchauffer près du feu magique. Il était toujours dans l'expectative. Voyant son expectative, Eamon dit
« Je vais vous raconter une histoire. Une histoire d'adultère. Une tragédie du monde ancien. Celle d'Hadès, le seigneur des ombres, épris d'une humaine à nulle autre pareille. Fort belle et innocente. Agatha. Il lui donna un fils, mi-homme, mi-démon. Mais l'adultère parvint aux oreilles de Perséphone, épouse d'Hadès et reine des damnés. Et dans son courroux, Perséphone obligea Hadès à enfermer Astérios, le fils né de l'adultère. Pour ce faire, Hadès fit ériger le plus grand labyrinthe jamais conçu, un labyrinthe sans issue. Et quand le labyrinthe fut bâti et Astérios enfermé, Perséphone donna elle-même Agatha en pâture au monstre. Hadès ne s'y opposa point. La vengeance de Perséphone, elle, était intarissable, tel le Styx. Tous les ans, un humain vierge et pur devait être sacrifié et envoyé dans le labyrinthe. Certains villageois tentèrent de rompre la malédiction en tuant le monstre, mais nul héros n'y parvint. Les hommes se perdaient dans le labyrinthe et finissaient par être dévorés par le monstre, capable de sentir la chair humaine à des kilomètres à la ronde. Alors, les villageois cessèrent d'enfanter, et avec un malin plaisir, Perséphone exigea d'Hadès qu'il aille de par le monde à la recherche d'un parent et de son enfant. Dès lors, Hadès n'eut de cesse de parcourir le monde pour assouvir la vengeance de son épouse.
« Mais c'est une histoire sordide que vous me racontez là !» s'exclama le vieil explorateur.
« Oh, les tragédies font toujours de bonnes histoires !» répondit Paimon à demi-amusé. « Vous devriez vous endormir maintenant. » Et sur ces mots, le vieil Alberti, qui avait l'apparence d'un jeune homme, sentit ses paupières se refermer seules. Il sombra dans un sommeil profond. Chloé grelottait contre son cheval. La chaleur de l'animal suffisait à peine à la maintenir au chaud. Soudain, le destrier se mit debout et s'éloigna. Sans comprendre son comportement, Chloé le suivit. « Il a peut-être senti quelque chose », pensa la jeune aventurière. Elle se fia à l'instinct de l'animal et fut récompensée après plusieurs kilomètres de marche sous la pleine lune. Et dans le lointain, la lumière d'un feu venait éclairer les arbres par intermittence. Elle voulut s'arrêter par prudence, mais l'animal alla jusqu'au feu, sans se soucier de savoir si les brigands en étaient à l'origine. Elle regarda tout autour, s'attendant à voir celui ou celle qui avait fait ce feu salvateur. Mais elle ne vit personne et finit par s'endormir près des flammes aux reflets violets. Quand Alberti ouvrit un œil, le feu de camp n'était plus. Paimon était face à lui. Il le regardait les yeux plissés et le sourire en coin. Derrière l'étranger, deux grands blocs rocheux collés l'un à l'autre. Le sol se mit à trembler un peu, et le vieil homme se réveilla tout à fait. Les blocs rocheux se séparèrent pour former un passage, laissant tomber des mottes de terre et des pierres. Alberti était sur son séant. Il regardait le passage, les yeux ébahis.
« Le passage !» murmura-t-il pour lui-même. « C'est donc vrai ?»
Sans rien dire, Paimon s'avança vers le tunnel formé par les deux blocs rocheux. À l'intérieur, c'était comme un mirage, chaud, flou et presque étouffant. Des éclairs bleus fendaient l'air pour mourir aussitôt. Paimon se retourna pour inviter le vieux à le suivre. Il lui sourit, puis regarda au-delà de l'épaule du vieil homme. Sur la colline, cachée derrière un arbre, se trouvait Chloé. Une main posée sur les rênes de son cheval, elle les observait. Le feu de la veille l'avait guidée jusqu'à eux. Elle avait trouvé des traces de pas dans la boue, puis était remontée jusqu'à cette créature difforme qui portait son père endormi par la seule force de ses bras, du moins une version beaucoup plus jeune de son père. Et frappée par l'étonnement, elle avait suivi le curieux binôme à bonne distance. Paimon pénétra tout à fait dans le corridor rocheux, suivi de près par Alberti. L'explorateur ne voyait rien qu'une fine ligne de ciel au-dessus de sa tête, une terre battue et rouge à ses pieds, ainsi que de vifs éclairs bleutés. Ils marchèrent ainsi un kilomètre, en silence,
tandis que la roche se refermait lentement au-dessus de leur tête. Seuls quelques éclairs bleus venaient éclairer les parois.
Bientôt, ils virent le bout du tunnel. Alberti plissa les yeux, puis les referma complètement, tant la lumière était aveuglante. Quand il les rouvrit, il vit une vallée verdoyante et des arbres à fleurs blanches et des monts enneigés au loin. De la colline, il pouvait voir la cité en contrebas, ses colonnes de pierre et ses statues de marbre. Raymond désigna la cité du doigt et dit « Voilà la cité que tu cherchais désespérément, vieil homme. »
Sans rien dire, le vieux Alberti s'avança lentement, dépassa son guide et descendit la pente maladroitement sans jamais quitter la cité des yeux. La bouche entrouverte et les yeux émerveillés, il exprimait l'incrédulité. Tout le fascinait, à commencer par ses motifs mythologiques. Il sortit un calepin de sa poche et commença à noter des choses avec précipitation. Il s'essaya à quelques croquis, mais il délaissa bien vite ses notes devant la beauté et l'ingéniosité de cette architecture. Paimon le suivait les mains derrière le dos, amusé. Le vieux Alberti passa la grande voûte, puis s'arrêta net en voyant l'animation de la rue commerçante. Les habitants étaient vêtus d'un simple drap blanc ou de couleur. Ils portaient des sandales de cuir, ils parlaient en grec ancien, ce qui n'empêcha pas l'explorateur de saisir quelques discussions au vol. Personne ne fit attention à lui et à son accoutrement venu d'un autre temps. C'est comme si Alberti était invisible. Ce qui convenait parfaitement au vieil explorateur, qui aimait être observé à distance, sans être lui-même objet de toutes les curiosités. Des amphores immenses séchaient çà et là. Les étals étaient remplis de fruits, de légumes et de céréales. Au bout de la rue, par-delà la masse des badauds, il pouvait apercevoir un temple surélevé.
« Mon Dieu !» murmura Alberti.
Il pressa le pas, impatient de voir le temple bien entretenu et non en ruine. Il ne s'arrêta qu'en bas des escaliers qui menaient vers ce temple en marbre. Chloé avait vu son père disparaître dans le tunnel. Elle remonta sur son cheval et s'avança jusqu'au passage secret. L'animal était nerveux. Chloé essaya de l'engager dans le tunnel, mais il se cabra et elle tomba de sa selle. Heureusement pour elle, elle s'étala à quelques centimètres d'une pierre et la chute fut sans gravité. Mais elle entendit soudain des hennissements et pas ceux de son cheval. Elle se remit debout et vit des cavaliers galoper entre les grands arbres. C'étaient les bandits de la veille. Chloé n'y pensa pas deux fois. Elle laissa son cheval impétueux et s'engouffra dans le tunnel naturel. Mais le passage était étroit et si étouffant qu'il empêchait toute progression rapide. Le premier cavalier parvint sur le seuil du passage. Il inspecta rapidement les rochers, puis pénétra à son tour. Soudain, ils ressentirent tous une secousse. Chloé s'arrêta dans sa fuite. Mais en entendant les rochers gémir, elle comprit que le passage se refermait sur lui-même. Le cavalier n'était plus qu'à une vingtaine de mètres, et il pouvait deviner la silhouette de Chloé.
« Viens donc par là, petite !»
s'écria l'homme à cheval. Mais on entendit bientôt des cris de désespoir, suivis par les hennissements des chevaux. L'entrée du passage s'était déjà refermée sur elle-même, et ce mouvement de fermeture se propageait comme une onde le long des gigantesques parois rocheuses. Chloé courut davantage. Elle sentait son cœur cogner contre sa poitrine et l'entraîner vers l'avant. Elle redoubla d'efforts à la vue d'une lumière blanche et diffuse. Derrière elle, elle put entendre les cris puis les craquements des ossatures. Une onde de choc parvint jusqu'à elle et la projeta vers la lumière. Elle était étendue dans l'herbe. Elle mit une main sur sa tête et poussa un petit râle de douleur. Elle se releva à grand-peine. Les blocs rocheux derrière elle s'étaient refermés sur eux-mêmes. Elle se remit en marche et emprunta la même rue que son père avant elle. Mais son obsession pour retrouver le vieil Alberti était telle qu'elle ne s'arrêta pas pour observer les fresques et les curiosités de la ville. Et son cœur s'emballa tout à fait à la vue de son père qui montait les marches du temple, précédé par cette créature dont personne ne semblait se soucier. Elle regarda autour d'elle et vit une armurerie à ciel ouvert. Sur l'étal, des glaives et des couteaux avaient été entreposés. Le vendeur n'était autre que le forgeron lui-même qui travaillait à l'intérieur. Chloé hésita, se pencha légèrement pour voir si le forgeron était absorbé par son travail, ce qui était le cas, puis elle vola un glaive. Fraîchement aiguisé, la lame du glaive pouvait faire office de miroir. Chloé se retourna vers le temple et ne vit plus son père. Elle regarda sur sa droite et ne vit qu'un mur interminable. Elle regarda sur sa gauche et ne vit qu'un autre mur aussi long et aussi haut. Mais le temple semblait être le seul point d'entrée. Arrivée en haut des marches, elle progressa d'une colonne à l'autre en prenant soin de ne pas se faire repérer. Un âtre brûlait au centre de la grande salle et une statue avait été érigée quelques mètres plus loin. Elle représentait un monstre mythologique, mi-homme, mi-serpent. Peut-être le croisement d'une gorgone et d'un hydre, allez savoir. Mais elle ne prêta pas attention à la représentation. Elle fut intriguée par deux portes au fond de la salle. Chacune était éclairée par deux flambeaux accrochés à même le linteau. Sans trop y penser, elle franchit le seuil de la porte la plus proche. Quelques minutes plus tôt, Paimon et son père avaient emprunté l'autre porte.
« Cher Alberti, » dit Paimon dans les galeries sombres du temple, « je vais te montrer la fierté de la cité d'Alcandre. Elle a été érigée sous mes ordres par le meilleur architecte de la région, le grand Dédale, et à son âme. »
Alberti jeta un bref coup d'œil par-dessus l'épaule de Paimon et vit le ciel. Il était sombre et orageux, comme sous l'effet d'un mystérieux microclimat. Ils débouchèrent sur un immense pont de terre, et de part et d'autre, le vide.
« Vois !» lui dit Paimon.
Le vieux Alberti regarda de droite à gauche, pour cerner l'étendue de cette fierté dont parlait Paimon. Et il ne vit qu'un labyrinthe sans fin en contrebas.
Soudain, un cri strident fit sursauter l'explorateur. Il recula et se mit à terre, apeuré.
« Levez-vous !»
dit Paimon.
« Vous ne voudriez pas manquer le meilleur !»
Et sur ces mots, il aida Alberti à se relever avant de l'entraîner sur le pont. Le pont n'avait aucune rambarde. Il formait un arc de cercle et débouchait sur une petite montagne 1 kilomètre plus loin. Paimon tenait maintenant Alberti par le bras. Ce dernier scrutait le labyrinthe sans fin, l'air inquiet. Il ne vit d'abord rien entre les longs couloirs, mais il entendit à nouveau un cri strident se propager par écho le long des murs de pierre.
« Qu'est-ce que c'est ?»
demanda Alberti avec une certaine candeur dans la voix.
« Mon fils. »«
Mon fils.
Comment ?»
dit Alberti.
« Ce que vous venez d'entendre, c'est mon fils. Et ce que vous voyez là-bas, c'est votre chère fille. »
Alberti regarda le point que désignait Paimon au loin. Même s'il avait retrouvé la vue d'antan, il ne put discerner clairement sa fille Chloé. Paimon le mit sur son dos et vola jusqu'à la montagne qui se trouvait au bout du pont. Alberti se cramponna à lui de toutes ses forces. Il n'avait jamais vraiment aimé la hauteur et encore moins la vitesse. Il était certes explorateur et courageux, mais la vitesse et la hauteur, c'était pas son truc.
« Je vais vous présenter ma femme, »
dit alors Paimon.
« C'est elle qui m'a demandé d'aller vous voir. »
Alberti était trop absorbé par le vol pour l'interroger davantage. Chloé, elle, était devant un mur infranchissable. Elle allait rebrousser chemin quand elle entendit la pierre bouger. Le mur s'enfonça doucement dans le sol et elle vit un couloir long et relativement étroit devant elle. Les murs latéraux faisaient au moins 20 mètres. La paroi s'effritait en certains endroits et des plantes avaient réussi à pousser entre les interstices. Chloé s'avança dans le couloir et le mur remonta derrière elle, plus rapidement, la condamnant à s'aventurer dans le couloir. Elle brandissait désormais son glaive à deux mains. L'adrénaline se changea bientôt en peur. Les cris stridents lui parvenaient par écho. Ils semblaient étouffés par les murs, mais ils allaient en s'intensifiant. Elle s'avança dans le couloir. Sa respiration était courte et précipitée. Tous les 10 ou 12 mètres, une intersection, des impasses et des embranchements qui ne mènent nulle part. Elle prit enfin conscience du danger. Jusque-là, la recherche obstinée de son père l'en avait empêchée. Chloé scruta alors les parois à la recherche de prises qui l'aideraient à escalader un mur. Elle en trouva un,
particulièrement abîmée. La lumière était faible, mais suffisante pour entreprendre l'ascension. Elle mit son glaive à sa ceinture et resta pétrifiée à la vue d'un crâne à moitié éclaté. Elle déglutit, puis se mit à grimper à toute hâte. Les cris étaient bien distincts désormais. Chloé progressa assez bien sur les 10 premiers mètres, mais les prises vinrent à manquer. Elle releva la tête et vit qu'il lui restait la moitié du chemin à faire. Elle prit son glaive et le planta de toutes ses forces entre deux pierres. Elle dut s'y prendre à 4 fois pour le planter solidement et poursuivre son escalade désespérée. Tout à coup, elle entendit un cri perçant, plus fort et plus proche que les autres. Elle posa une main sur le manche du glaive et put grimper un peu plus. La peur qu'avaient réveillé ses cris annihilait le vertige et la crainte d'une chute. Elle parvint tout en haut du mur. Il était large d'un bon mètre et donnait une vue d'ensemble. Mais elle n'observa d'abord rien de l'étendue du labyrinthe. Elle pivota légèrement pour voir ce qui se profilait en contrebas. C'est là qu'elle la vit. La créature, bipède, mais recouverte d'écailles. Elle n'avait presque pas de bras, mais des jambes robustes et une gueule reptilienne d'où sortait une langue visqueuse. Chloé recula un peu pour sortir complètement de son champ de vision. De là-haut, elle semblait sauve, car la bête était incapable de grimper. Elle l'attendit un peu, puis elle entendit la créature s'éloigner.
« Votre fille est dégourdie, » déclara celle qu'on surnommait Perséphone. Alberti était assis auprès d'elle. Il était tétanisé et fasciné par sa beauté. Depuis leur poste d'observation, Paimon et sa femme pouvaient apprécier l'ensemble du labyrinthe et les drames qui s'y tramaient. Alberti assistait impuissant au sacrifice de sa fille, lui qui avait servi d'appât et dont le désespoir nourrissait les vils desseins de Perséphone. Paimon regardait sa femme avec un mélange de colère et de plaisir partagé. Colère pour succomber à ses charmes et exaucer ses vœux. Plaisir d'assister à ce rituel macabre. Au moins sa femme démoniaque avait-elle laissé vivre son fils, ce monstre né de son adultère avec une bergère. Alberti oublia soudain les démons qui se tenaient à ses côtés. La cité perdue d'Alcandre ne l'importait guère désormais, et il n'avait Dieu que pour sa fille menacée. Il pleurait sans émettre le moindre son. Il se maudissait en son fort intérieur et priait le ciel à demi pour qu'il ne s'agisse que d'un mauvais songe. Oui, c'était sans doute cela. Il s'était assoupi dans un coin de sa maison et il allait sans doute se réveiller auprès de sa fille. Mais ce n'était pas un songe. Du haut de son mur, Chloé suivait à pas feutrés la bête en contrebas. Mais le mur s'arrêtait net. Et en bas, l'intersection. En face, 3 mètres plus loin, le mur qui continuait.
« Oh, votre fille m'endort !» dit Perséphone à Alberti. Et sur cette sentence, elle déploya ses ailes et emmena le vieil homme au loin, puis déposa l'explorateur dans l'un des 1000 couloirs construits par Dédale. Paimon la laissa faire. Chloé avait vu l'ange noir déposer son père quelque part au milieu du labyrinthe. La créature était toujours au pied du mur, allongée, presque somnolente. Chloé l'observait, la sueur au front. Elle ne bougea d'abord pas, puis il y eut un courant d'air dans le couloir, et la bête releva la tête d'un coup. Puis elle se remit sur ses jambes lentement pour mieux humer l'air. La chair humaine d'Alberti était parvenue jusqu'à elle. Elle renifla davantage, puis s'élança dans le labyrinthe à sa rencontre. Chloé ne la vit bientôt plus, et désemparée, elle prit son élan et sauta aussi loin qu'elle put pour atteindre le mur d'en face. Elle réussit à franchir le vide, mais le mur s'arrêta net, à nouveau. La créature avait ralenti sa course pour flairer sa proie. Elle tourna sur sa gauche et disparut en poussant des cris stridents. Chloé s'efforça pour ne pas être distancée, mais sa progression était ralentie par les sauts qu'elle devait faire. Si elle put d'abord s'orienter grâce aux cris de la bête, elle finit par ne plus rien entendre. Sauter d'un mur à l'autre était déjà périlleux en soi. Alors pourquoi sauter quand il n'y a plus d'espoir? Elle allait abandonner quand un cri s'éleva dans l'air et se propagea dans toutes les directions. C'était celui de son père cette fois,
dévoré vivant par la créature d'Alcandre.
« Papa !»
s'écria Chloé par réflexe. Elle n'eut pour seule réponse que des cris d'agonie. Elle s'élança dans la direction de ses cris. Les minutes semblaient interminables. Elle sautait d'un mur à l'autre sans réfléchir. Et soudain, en sautant un mur, elle aperçut du coin de l'œil la créature. Elle y regarda de plus près et vit le corps de son père décapité, les jambes séparées du tronc. La bête avait dévoré ses bras et sa tête. Elle s'attaquait désormais à ses tripes, aveuglée par l'odeur du sang et le spectacle de la chair déchiquetée. Depuis son siège, Perséphone tapait des mains. Paimon restait stoïque. Il observait Chloé de ses yeux jaunes et perçants. Il la vit saisir son glaive et se poster au-dessus de la bête. Paimon allait prendre son envol pour sauver son fils, mais Perséphone s'interposa pour lui rappeler les règles du jeu. À son tour, Paimon assista à la scène impuissant, comme l'avait été Alberti avant lui. Il regardait son fils dévorer le pauvre homme sans se soucier du danger qui se profilait 20 mètres plus haut. Et pour mieux savourer sa vengeance, Perséphone souffla ces quelques mots dans l'esprit de Chloé. « Tu l'as, mon enfant. Tue la bête qui a dévoré ton père. » Et prise d'un courage sans borne, Chloé se jeta du haut de son mur et vint planter son glaive dans le crâne de la créature. La bête fut tuée sur le coup, et l'on entendit le cri de désespoir de Paimon, ainsi que les rires de Perséphone. Anéanti, Paimon ne laissa pas son courroux éclater. Il regardait dans le vide, tandis que sa femme l'enlaçait tendrement, non sans ironie. Perséphone l'aida enfin à se relever, puis ils retournèrent aux enfers sans se soucier le moins du monde du sort de la jeune Chloé. En contrebas, Chloé était accroupie entre deux cadavres. Elle veilla 4 jours et 4 nuits près des restes de son père, avant que la folie et la faim ne s'emparent d'elle. Elle commença par manger la bête pour survivre, et puis elle prit les restes de son père en espérant trouver la sortie. Elle voulait lui donner une sépulture décente. Mais après plusieurs semaines à errer sans trouver la moindre issue, elle ressentit les premiers effets de son indigestion. Manger la bête d'Alcandre n'était pas sans conséquence. Elle commença par perdre ses cheveux, puis elle fut prise de vomissements et de spasmes sans fin. Elle pouvait passer des jours à trembler sur elle-même, la tête contre un mur. Et un matin, elle se réveilla, la peau craquelée et les ongles anormalement longs. Son corps autrefois pur devint verdâtre et des croûtes se formèrent sur ses bras et son torse. Dans le reflet du glaive qu'elle avait conservé, elle vit les derniers vestiges de son visage. Si elle avait d'abord pensé à se trancher la gorge avec la lame, elle regardait désormais la transformation avec une certaine fascination. C'est là qu'elle ressentit sa peau se figer et devenir aussi dure que la pierre. Par réflexe, elle jeta le glaive et son reflet néfaste par-delà l'un des murs. Bientôt, son esprit oublia tout à fait son père et toute cette aventure. Des serpents naquirent des pores de son crâne. Elle les alimenta des restes du vieux Alberti. Et quand elle avait faim elle-même, eh bien, elle arrachait un ou deux serpents et les engloutissait sans plus de cérémonie. Ainsi s'acheva l'histoire de Chloé Alberti, et ainsi naquit la Gorgone d'Alcandre.